Bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, la rétrospective de l'actualité de la semaine. On va parler banlieue, on va parler François Fillon, on va parler aussi géopolitique. Alors, les banlieues, bientôt le grand embrasement. Les cités chaudes françaises vivent un nouvel épisode d'embrasement depuis 15 jours, sporadique pour le moment, mais les scènes d'émeutes ont continué à s'enchaîner cette semaine depuis la violente intervention policière à Aulnay-sous-Bois pour interpeller le jeune Théo qui, au cours de cette interpellation, aurait été violé par l'intermédiaire d'une matraque, donc manipulée par un policier. Alors, aurait été violé conditionnel, puisque on a eu la version du policier cette semaine, accusé du viol du jeune homme avec cette matraque. Il a livré cette version à la justice, mais la justice a fuité et des PV ont été publiés dans la presse. Le policier ne parle que de coups à l'arrière des cuisses et dans les jambes pour le faire tomber et lui passer les menottes. La scène dure 30 secondes. Elle est d'ailleurs confirmée par les caméras de vidéosurveillance. Le policier dit n'avoir aucune idée de la façon dont la blessure anale a été faite à la victime. L'enquête se poursuit. Coïncidence, le Parlement cette semaine a définitivement approuvé l'élargissement de la légitime défense pour les policiers qui pourront ouvrir le feu plus facilement. Coïncidence? Non, là ce n'en est pas vraiment une. François Fillon a plaidé cette semaine pour que la majorité pénale soit abaissée à 16 ans. Il a fait cette proposition quelques heures après avoir déjeuné avec Nicolas Sarkozy. Le candidat des Républicains à l'élection présidentielle a pointé du doigt des mineurs qui se savent quasiment intouchables, car l'ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs, dit-il, n'est plus adaptée. Elle ne permet pas d'apporter une réponse proportionnée aux actes de délinquance commis par des individus de 16 ou 17 ans. D'où cette proposition, s'il est élu, d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Mais encore faut-il qu'il soit élu. François Fillon se l'a dit, ça va mieux dans les sondages. Il est toujours au coude à coude avec Emmanuel Macron pour la deuxième place qualificative pour le second tour derrière Marine Le Pen. En vérité, il est un ou deux points derrière, voire à égalité, compte tenu de la marge d'erreur. Il n'est pas forcément disqualifié. Et on s'aperçoit surtout que la tendance, ce n'est pas une baisse de François Fillon, mais plutôt une baisse de Emmanuel Macron. Le phénomène se tasse. La bulle serait-elle en train de se dégonfler à la faveur des premières déclarations clivantes d'Emmanuel Macron, comme cette semaine quand il a déclaré que la colonisation a été un crime contre l'humanité et que la France devrait s'en excuser. Il y en a un qui est serein et qui n'a plus rien à gagner ni à perdre, c'est François Hollande, qui affirme que tout va se jouer dans les 3 semaines pour l'Elysée. D'après le Canard enchaîné, ce sont les propos rapportés par le Canard. À Mons, ce n'est pas sérieux, dit François Hollande. Macron, ce n'est pas solide et Fillon ne peut plus faire campagne. Sur le deuxième tour, le chef de l'État envisage une victoire de Marine Le Pen. Une victoire qui était inattendue cette semaine, c'était celle du Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions. Le PSG a littéralement écrasé le Barça, un grand d'Europe pourtant au Parc des Princes, 4-0. Et puis pour les fans, mais aussi pour les curieux ou ceux qui veulent consolider leur culture générale, sachez qu'on connaît le nom du prochain Star Wars, le Star Wars 8. Il s'appelle Last Jedi en anglais et traduit en français par Les Derniers Jedi. Voilà pour cette rétrospective, merci de nous avoir choisi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.
La météo de votre région sur RVE.
Avant de retrouver le sport avec Philippe Carnus, qui nous parlera entre autres sans doute du semi-marathon de Bullion, voici la météo pour ce dimanche. Un ciel qui n'aura pas d'averse, mais par contre des passages nuageux alternant avec des éclaircies. Les températures sont fraîches, 9 à 10 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnus.
Et oui, bonjour à tous et à toutes, effectivement, hein, le semi de Bullion, on va donc en parler, ça sera un des thèmes forts hein, de cette matinée sportive ô combien chargée sur notre antenne, puisque on va aussi parler de boxe française avec notre invité, le président, l'homme à tout faire de la section boxe française de Rambouillet, Jean-Jacques Lenôtre. Jean-Jacques, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation, je crois que ça fait un petit moment qu'on vous avait pas reçu à ce micro.
Oui, tout à fait, donc ça fait l'occasion de revenir voir un petit peu RVE, ça fait longtemps qu'on collabore ensemble.
Ouais.
Hein, sur beaucoup de manifestations. Et bien oui, on va venir donner quelques petits résultats, quelques renouveaux aussi au niveau du club. Donc c'est toujours intéressant de se revoir périodiquement, quoi.
Voilà, donc boxe française ce matin, semi-marathon de Bullion, et puis voile, hein, puisqu'il est revenu aussi, après avoir été notre invité principal, c'est Denis Gallienne. Denis, bonjour, merci, parce qu'on va avoir un événement énorme ce matin.
Bonjour, Philippe.
Grâce à votre intermédiaire, on va avoir Jean Lecam vers 10h30 à ce micro.
Tout à fait, bonjour Philippe, oui.
Ouais.
Bonjour à tous.
Donc effectivement, on aura Jean Lecam qui nous parlera de notamment de son après Vendée, comment il vit son retour notamment donc au quotidien. Et puis hier, on a assisté à l'arrivée du 11e concurrent.
Oui, on a assisté à l'arrivée du 10e et du 11e en deux jours, en particulier le local de l'étape qui est Cali, Arnaud Boissière, qui son surnom est Cali et qui est le local régional puisqu'il habite les Sables-d'Olonne.
C'est ça. Donc chaque fois que vous venez, bah voilà, il y a donc un concurrent qui lui arrive et rallie la ligne d'arrivée donc au Sables-d'Olonne. Allez, on me dit qu'il y a tout de suite le téléphone concernant Bullion et le semi-marathon. Je crois que c'est Hervé Joly qu'on a au téléphone. Hervé, bonjour. Hervé Joly, bonjour à Bullion. Est-ce Hervé Joly est là? Non. Donc il est pas là. Faut pas donner le téléphone quand Hervé est pas dispo. Mais je sais que sur Bullion, c'est pas très très facile. Jean-Jacques, donc événement, on l'a dit aujourd'hui, semi-marathon de Bullion. Hein, on aura aussi la journée de la Rainette. Hein, on n'oubliera pas puisque c'est ces véhicules anciens qui sont réunis donc au parking Leclerc de Rambouillet à partir de 9h et dès 10h30, on pourra monter dedans pour aller faire un petit tour. Ils vont probablement donc croiser donc les intervenants du semi-marathon. De Bullion qui s'était lancé à 9h45. Pour vous, comment va votre section en ce mois de février 2017? C'est un renouveau?
Oui,
un redépart?
Oui, oui, on a eu une ou deux années un petit peu creuses suite au départ de champions du club, hein, notamment de notre championne du monde qui a arrêté, je dirais, la boxe française pour se consacrer à ses études.
Oui, Cassandre Frémaux, on a encore sa dédicace dans nos studios.
N'est-ce pas? C'était vraiment de très belles années là que l'on a pu passer ensemble. Et on est reparti maintenant avec une nouvelle génération qui monte. Donc on arrive maintenant avec des jeunes qui arrive en demi-finale, on va dire, en Île-de-France. Donc ça se passe très bien. On a une adulte l'année dernière, une senior qui est arrivée demi-finaliste France. Donc on a peut-être pas beaucoup parlé, on n'a pas eu le temps, ça a été très très vite. Mais là aussi, ça promet donc de belles années encore devant nous, quoi.
Voilà, donc c'est un deuxième redémarrage après cette palanquée de champions et championnes qu'on a eu pour la boxe française dans les 10 premières années.
Oui, oui, tout à fait. Mais c'est un petit peu cyclique quelque part, ouais, c'est normal. Hein. On développe une génération de championnes et de champions. Après, voilà, les faits de la vie font que les personnes s'en vont, déménagent par le travail, etc., par les études. Donc on a un petit creux, puis après on va repartir. C'est le sport, je crois que c'est dans tous les clubs pareil, quoi.
Voilà, allez, on va refaire une deuxième tentative du côté de Bullion, la radio, c'est ça. Est-ce que, alors je sais que Bullion, c'est pas facile. Hein. Est-ce qu'Hervé Joly m'entend du côté
oui,
de
Philippe.
Bullion? Ouais, voilà, c'est bon, Hervé. Oui.
Ça y est, je t'entends cette fois-ci.
Voilà, c'est bien. Alors, ça se passe comment du côté de Bullion? Hein, on l'a dit, plus de 1000 concurrents, 1200, je crois, qui sont partis à 9h45, j'allais dire, dans le brouillard.
Oui, tout à fait. C'était ce matin des conditions un peu particulières, là, du côté de Bullion. D'abord, il fait froid, il fait frisquet, puisqu'il y avait moins de 2 degrés au moment du départ. Et puis, effectivement, un brouillard a coupé au couteau avec une visibilité assez réduite. Hein. Mais bon, en tout cas, un beau succès populaire, parce qu'effectivement, ils étaient plus de 1200 coureurs à s'élancer il y a quelques minutes donc sur le parcours du semi-marathon de Bullion.
Oui, alors on va rappeler Hervé que c'est pas un parcours très très facile, hein, notamment avec cette côte là de la Villeneuve qui nous emmène au centre technique de foot, et c'est dans la descente où très souvent la course se joue.
Oui, c'est pas ce qu'on appelle dans le jargon un parcours roulant, un parcours assez difficile effectivement, et avec la particularité donc d'avoir les principales difficultés, on va dire, dans la première moitié, voire même presque le premier tiers de la course. Avec notamment effectivement cette fameuse côte de Clairefontaine et la descente, attention, très technique la descente, où on a vu dans le passé des chutes, notamment du haut verglas, ça sera pas le cas cette année, mais effectivement c'est un peu le juge de paix hein, de ce parcours-là, et pour les coureurs qui seraient partis un petit peu trop vite, qui se sont mis rapidement dans le rouge, là ça va être compliqué pour la suite, il faut être assez prudent sur cette première partie de parcours. Après c'est un petit peu plus roulant, notamment le retour par Moutier sur Bullion.
Oui, alors donc Hervé, beaucoup sont en préparation hein, pour d'autres grosses échéances dans l'année, à savoir notamment le marathon de Paris du mois d'avril.
Oui, tout à fait. Là, c'est un peu le, on va dire que c'est un peu la première course de la saison pour beaucoup de coureurs avec qui j'ai discuté ce matin. C'est la course de la rentrée. On s'est préparé tout cet hiver et c'est un petit peu le premier test de l'année. Et effectivement, certains sont en préparation pour le marathon de Paris qui va avoir lieu maintenant dans un peu plus d'un mois et demi. Effectivement, là, c'est un petit peu un premier juge de paix pour voir où on en est dans sa préparation, s'il y a des choses à corriger, améliorer, un peu de retard dans la préparation. C'est un peu une journée test pour beaucoup.
Oui, et puis le fait que il n'y ait pas Rambouillet, hein, vous viendrez donc en parler la semaine prochaine, ça donne encore plus d'importance à ce semi de Bullion.
Effectivement, Bullion a récupéré un certain nombre de coureurs qui venaient d'habitude sur le semi-marathon de Rambouillet. D'ailleurs, il y en a qui m'ont confirmé ce matin, hein, voilà, qui couraient d'habitude à Rambouillet et qui sont venus courir ce matin à Bullion, puisque malheureusement, il n'y aura pas de semi-marathon de Rambouillet cette année. Des différences quand même, puisque la particularité du semi de Bullion, c'est qu'il n'est pas qualificatif pour les championnats de France comme l'était celui de Rambouillet. Et donc, c'est difficile d'avoir un chrono fiable, on va dire, puisque c'est pas du tout déjà la même topographie au niveau du circuit. Et effectivement, pour ceux qui venaient essayer de réaliser un chrono à Rambouillet et se qualifier, ça sera beaucoup plus difficile, puisque le parcours est beaucoup plus difficile. Mais on va dire que cette année, c'est une année un petit peu particulière, voilà, pour la région et Bullion. L'organisation de Bullion a la chance que sa course soit maintenue, qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Tant mieux pour eux. Et effectivement, comme souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, on va souhaiter beaucoup de succès à tous les gens qui sont venus courir ici à Bullion aujourd'hui.
Oui, de toute façon, pour l'avoir très longtemps donc suivi et couvert, ça reste une belle course, une belle manifestation un parcours très vallonné. Hein.
Oui, parcours très accidenté. Et puis en plus, la particularité cette année, c'est que, en regardant un petit peu plus près tous les coureurs qui sont présents au départ, il n'y a pas de grandissime favori. Donc c'est une course, on va dire, assez ouverte, comme elle ne l'a pas été depuis très longtemps. Il y a plusieurs coureurs qui ont la possibilité de s'imposer ici. Et je pense que ça va être une course relativement ouverte, encore une fois avec beaucoup de prudence pour celles et ceux qui découvrent ce parcours aujourd'hui ici, parce que il faut toujours être prudent ici à Bullion vu le circuit, et surtout ne pas partir trop vite, parce que là la sentence elle est très rapide après.
En 1h08, 1h09, c'est à peu près ce que doit mettre le vainqueur.
Ça serait un très beau chrono. Écoutez, c'est tout ce qu'on va leur lui souhaiter, mais bon, moi je tablerais peut-être sur un chrono un petit peu moins rapide, un petit peu autour d'1h10, peut-être un peu plus, 1h12. Il y a des conditions un petit peu difficiles, et puis après ça dépend aussi, comme toujours, de la stratégie de la course. Est-ce qu'il va y avoir une bagarre devant, ou il y en a un qui va se dégager tout seul rapidement aux avant-postes? Ça change un petit peu les données également. Mais bon, je pense que on va partir sur 1h10, 1h12, et puis on verra. Si c'est moins, tant mieux pour eux. Hein. Mais encore une fois, c'est pas un parcours très très roulant. Hein. On va se le rappeler.
Très bien, merci Hervé. Dites bonjour à toute l'équipe d'organisation qu'on a vue la semaine dernière à ce micro.
Hein, et puis, j'y manquerai pas, il n'y a pas de problème.
Voilà, et puis on reviendra naturellement en détail la semaine prochaine, puisque vous serez l'invité avec la section de Rambouillet Olympique, et je suis sûr qu'on aura beaucoup de choses à se dire.
Oui, je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire. Voilà, bon dimanche à tous et encore merci.
Très bien, merci donc à Hervé Joly. Voilà pour un des événements forts de cette journée sportive dans la région, le semi-marathon de Bullion, qui est parti devant la salle Parago à 9h45. C'est 26e édition déjà. Jean-Jacques, vous avez souvent couru de telles épreuves avec votre section, histoire de vous préparer physiquement?
Oui, nous c'est plutôt histoire de s'amuser et de se préparer effectivement. Alors j'ai jamais fait Bullion, je sais qu'il était vallonné. Pour moi c'était tôt dans la saison, oui. Parce que c'est la pleine période de compétition pour nous actuellement. Donc c'est difficile de s'entraîner, et c'est vrai qu'on se donnait souvent rendez-vous soit avec le semi de Rambouillet ou bien la Rambolitaine de Rambouillet, quoi. Donc c'était deux grandes courses que l'on faisait assez couramment jusque-là, quoi.
Alors, on en parlait en off, mais enfin, Hervé Joly, on reparlera la semaine prochaine. Vous aussi, vous regrettez en tant qu'amoureux sportif sur Rambouillet de la disparition cette année du SMI de Rambouillet, qui est traditionnellement l'événement sportif numéro un de par son antériorité. Ça aurait été cette année la 31e.
Oui, oui, tout à fait, parce que surtout pour nous, c'est une course régionale, on est juste à côté, on peut inviter plusieurs personnes du club, on se retrouvait souvent une dizaine, voilà, on faisait voir qu'on mettait le maillot du club de Rambouillet, et puis on faisait voir qu'on était là, qu'on participait, même si nous notons, ils sont quand même un peu ridicules par rapport aux grands champions, mais c'est pas grave, on faisait ça avec plaisir, quoi. Et c'était dans la bonne ambiance, quoi. Ça se passe très bien à Rambouillet, habituellement, donc il n'y a pas de souci, quoi.
Bon, il y aura la randolitaine, en principe, qui devrait se faire, la Rambouillet Sport, dirons-nous maintenant, rebaptisée, ça sera le 23 avril.
Oui, bah là, je pense qu'on sera présent. Là aussi, on sera, je sais pas si encore le 10 et le 20, mais on essaiera d'y participer. Là, encore une fois, on fera pas forcément des temps canons par rapport aux sportifs présents donc du club de Rambouillet, hein, ou des clubs de Rambouillet. Mais on sera présent pour faire voir que, on sait faire aussi dans des temps qui sont pas trop ridicules. On fait ça entre 45 et 50 minutes pour nous, hein, c'est tout, hein. C'est pas notre premier sport, quoi. Voilà. L'essentiel pour nous, le 10 km, c'est très bien parce que dans notre filière musculaire, ça nous permet de bien se préparer, quoi. Une bonne endurance, c'est pas trop long, donc on reste encore sur une filière d'explosivité pour nous, on n'est pas sur l'endurance, donc c'est très très bien, donc on souhaite qu'elle puisse se faire et d'y participer, quoi.
Allez, très bien, donc on repart pour votre section, vous nous disiez que c'était une nouvelle un redémarrage, combien de licenciés vous avez cette année?
Alors cette année on est 107 licenciés, bon on est un petit peu en diminution par rapport à l'année dernière, on était 113, bon voilà, c'est pas grand chose, hein. Et puis globalement on est 30% de cumulé. En général, on était 30% l'année dernière, 30% cette année, ça tombe très bien, encore une fois. On peut constater qu'il y a un peu plus de personnes de Rambouillet, mais globalement, c'est une section qui se porte bien, quoi.
Oui, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de clubs de boxe française dans la région, donc vous devez quand même ratisser dans les communes voisines, quoi.
Ah oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup de personnes effectivement qui viennent de Rambouillet, hein, actuellement plus 50%. Après, bah il y a Ably, il y a le Perret en Yvelines, il y a quelques personnes qui viennent aussi, je crois, des Essarts. Donc voilà, on draine effectivement un petit peu tous les environs.
Oui, et c'est vrai que on va le répéter, mais c'est une discipline qui a souvent attiré des jeunes filles. Je crois que c'est un des sports qui attire le plus de jeunes filles au départ.
Mais c'est un sport qui va très bien aux filles. Hein. On est plusieurs à le dire. C'est peut-être l'avenir de la boxe française. C'est la savate ou la boxe féminine. Parce qu'effectivement, c'est un sport qui est très aérien. Les filles sont généralement plus souples que les hommes. Généralement, je dis bien. Voilà, comme c'est un sport très aérien, elles sont très avantagées. Et effectivement, nous, nos résultats sportifs au niveau du club ont été plutôt portés par les filles. C'est bizarre que ça puisse paraître.
Oui, et je crois que c'est une tendance qui est dans tous les clubs de boxe française. Hein. C'est, on l'a dit, on va le répéter, un des sports les plus pratiqués par les féminines.
Par les filles, oui. Je crois que au niveau échelon national, on est quasiment 50 000 licenciés. On n'est pas très très loin là cette année. Et il y a 35% de féminines. Et tous les ans, il y a une progression chez les filles qui est assez remarquable, que ce soit chez les adultes ou chez les jeunes.
Oui, alors sport physique et sport aussi très technique, vous l'avez dit Jean-Jacques.
Oui, tout à fait, il y a un côté technico-tactique, on en reparlait encore avant-hier soir en entraînement, qui est énorme en boxe française, parce que quelque part, on doit avoir des boxeurs de françaises qui sont intelligents. Il faut pas taper pour chercher à faire mal quoi que ce soit. Déjà nous on travaille sur la touche, donc sur l'aspect technique, et effectivement il y a l'aspect tactique pour essayer d'enfermer un petit peu quelque part l'adversaire, soit dans un coin, soit dans les cordes, pour le priver un petit peu de mouvement et puis d'essayer de le toucher davantage. Donc il y a ce côté-là qui est très intéressant.
Denis, la boxe française, ça vous interpelle, c'est les Brigades du Tigre, non?
Exactement. Voilà. Je repensais effectivement au feuilleton.
Hein, c'est ce que tout le monde pense. Hein. Mais c'est vrai que c'est un des sports les plus pratiqués sur Rambouillet, parce que vous avez organisé beaucoup de manifestations,
oui,
et puis avec beaucoup de bons résultats.
Oui, donc on peut citer, on a eu quand même donc trois champions de France. On a fait un jeune a été quatre fois finaliste, Île-de-France. Et l'année dernière, on a une jeune fille donc qui a été demi-finaliste France cette année en championnat de France technique.
Voilà, alors à quel âge on peut venir vous rejoindre? Pour ceux qui auraient la vocation,
À partir de 15-16 ans. Voilà, 15-16 ans. Oui, parce qu'effectivement, on n'a pas encore de structure pour les jeunes, c'est très compliqué. Même si dans les années à venir, cela pourrait changer, puisque nous avons effectivement 6 personnes en formation de monitorat. Et il y en a deux qui s'est très intéressé pour ouvrir une section jeune. Donc pourquoi pas.
Des tout jeunes comme ça pour.
Oui, à partir. À partir de 8 ans, quoi. Généralement, c'est ce qui se fait dans d'autres clubs. On est un petit peu pénalisé là-dessus en championnat jeune en Yvelines. On le voit bien. Hein, nous, on n'a pas de section jeune. On arrive quand même. On l'a fait l'année dernière, à remporter un titre. On était troisième meilleur club jeune pour l'équipe jeune des Yvelines. Derrière Versailles et Houille, qui ont des sections jeunes très spécifiques. Ils ont une cinquantaine de jeunes qui sont présents dans les entraînements, quoi.
Et les jeunes qui viennent d'une façon générale, ils restent vers votre sport ou comme très souvent, ils viennent.
Je pense que ce sont les événements de la vie qui font que, soit les études les emmènent ailleurs, soit ils déménagent ou pour aller travailler ailleurs. J'en ai après qui reviennent un peu plus tard. Là, c'est le cas cette année.
Et un profil type? Du parfait ou de la parfaite boxeuse
Je dirais
pour
que
un jeune,
quelque part, si on est grand, on est favorisé.
Bah oui.
Avec souvent, toujours le rapport taille-poids.
Voilà. C'est pour ça que je pose la question.
C'est ça. Mais tout le monde peut en faire. Je dirais, nous, on le pratique plutôt en sport loisir. On a 90% des personnes qui sont là en sport loisir. On a très peu de compétiteurs et de compétitrices, en fait.
Alors justement, c'est une question que j'allais poser. Comment se fait la répartition loisir-compétition? On peut simplement en faire comme ça, que pour le fun, que pour le loisir?
Oui, tout à fait. On a trois entraînements par semaine qui sont pour tous les niveaux. Et on a un entraînement spécifique pour les compétiteurs et compétitrices.
Vous avez des vétérans aussi?
Oui, tout à fait.
Loisir, des personnes.
J'ai des personnes qui ont plus de 60 ans en vétéran. Et bon, là, j'ai un vétéran, mais quand même plus jeune, puisqu'il est, il a 38 ans, qui va être en finale Coupe Île-de-France vétéran. Il est qualifié déjà, donc la finale aura lieu vers le 25 mars. Et ben voilà, on lui souhaite bonne chance.
Et quand on décide de passer à la compétition, je suppose que là, on accentue les doses d'entraînement. Là, ça devient autre chose.
Oui, là, c'est quand même une autre dimension quelque part. Parce que là, on essaye quand même de faire 3, voire 4 entraînements par semaine, aller courir le week-end. Donc, il y a une certaine hygiène de vie quand même à avoir par rapport au sport loisir, quoi. Donc, il faut être plus rigoureux.
Oui, puis il y a le poids aussi. Vous avez des catégories de poids. Ça, c'est l'énorme difficulté dans tous les sports de combat comme ça.
Ah, c'est toujours difficile, surtout en compétition, de rester au poids et de faire attention aux différentes invitations, aux différentes occasions d'arroser des événements. Hein, il faut être là très rigoureux sur l'aspect alimentaire, quoi. Faut bien respecter.
On vous contrôle avant chaque combat le poids.
Ah, il y a la
pesée. On va boire.
Il y a la pesée. Quand il y a la pesée, 9h à 10h en général. Là, si on est en sous-poids, on est éliminé d'office. Si on est en surpoids, tout dépend de combien. Si jamais on a par exemple 500 grammes de trop, on a une heure pour le perdre.
Voilà.
Essaye dans la mesure du possible. Il faut être. Moi, de toute façon, j'amène la balance généralement avant les compétitions et je pèse mes compétiteurs pour être sûr qu'ils sont.
Il faut aller courir, il faut boire, il faut éliminer, il faut.
Pour éliminer, il faut se couvrir, il faut prendre généralement des vêtements, aller courir, faire du saut à la corde. On perd de l'eau, on perd de l'énergie. C'est là le problème, quoi. Donc non, il faut essayer au maximum d'être prêt, je dirais, pour le jour de la compétition. Il faut se préparer, c'est une semaine, deux semaines avant pour être déjà au poids, quoi.
Alors, on va rappeler où vous pratiquez votre sport, sur Rambouillet.
Alors, il y a deux endroits. Il y a la salle Dreyfus, rue Ferdinand Dreyfus, le mardi et le vendredi de 20h à 22h. Et c'est là qu'on fait également l'entraînement compétiteur le jeudi pour de 20h à 22h. Et on a le gymnase du Vieux-Moulin de 20h30 à 22h le mercredi soir.
D'accord.
Où là, c'est intéressant parce qu'on peut accrocher les sacs de frappe, on a un peu plus d'espace. Puisque maintenant, quand on est 40 ou 50 personnes, c'est quand même difficile, quoi.
Il n'y aura pas de compétition cette année sur Rambouillet d'organiser. Vous en avez beaucoup organisé. On se rappelle cette dernière compétition, la nuit du Raid 28, où les coureurs du Raid 28 avaient croisé le ring de boxe qui était installé au gymnase du Vieux-Moulin. C'est prévu d'en refaire d'autres dans les prochaines années.
Parce que là, ça fait 2 ans qu'on est un petit peu coincé par l'aspect calendrier. On a effectivement un accord avec la ville et ça se passe pas bien pour pouvoir organiser donc une compétition sur janvier, février, mars. Mais là, actuellement, le calendrier national fait que toutes les compétitions sont décalées, donc ça devient compliqué. Alors, ce qu'on a décidé avec plusieurs personnes du club, c'est que l'année prochaine, même si le calendrier ne nous permet pas de prendre une rencontre officielle, on fera ce qu'on va appeler un open de Rambouillet l'année prochaine en 2018.
D'accord. En tout cas, chaque fois que vous avez organisé des manifestations, le public a été réceptif quand même. Hein. Il a bien découvert votre sport.
Oui, tout à fait. Il y a toujours eu du monde. Alors surtout quand il y a du, quand il y avait du combat. Ouais, hein, le combat, bon bah là, c'est le coup est porté. On cherche le chaos hein, de l'adversaire. Et là, il y avait davantage de monde. Mais on a quand même du monde qui vient voir sur l'aspect assaut technique. Mmh. Pour voir un petit peu bah, l'esthétisme et le, la combativité quand même de nos boxeurs. Donc là, on espère encore toucher, bah, pourquoi pas, de futurs champions. Quoi.
Très bien, Jean-Jacques, on va descendre du ring.
Oui.
On va écouter une page de pub, écouter un peu de musique, et ensuite on va monter sur le bateau, puis l'embarcation, on va rejoindre donc Jean Le Cam en Bretagne. Allez, mais la pub, la musique.
La Bastienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure reconnu au Grenelle de l'environnement, vous propose des devis gratuits pour la rénovation de vos fenêtres, portes, volets, stores, portails, portes de garage et même des prestations d'isolation de comble et maintenant d'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits à Bastienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure reconnu au Grenelle de l'environnement, showroom 27 rue de Chartres au Péray-en-Yvelines. Voir conditions magasin.
Briffaut Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Briffaut Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site briffaut-électricité.com.
Pratiquez le sport dans votre région avec RVE.
Ah, alors en attendant le direct avec Jean Le Cam, Jean-Jacques, cette musique là, c'était le symbole un peu de, du club.
Oui,
c'est pour un rappeler, disque à la demande.
C'est un disque à la demande, tout à fait. C'est merci beaucoup RVE de nous avoir passé ça. C'est pour rappeler quelques souvenirs à nos boxeurs et à nos compétitrices, compétiteurs. Ça nous a motivé pendant deux ans d'avoir cette musique. C'est un superbe clip avec Mount 5. Et bon, bah voilà, merci beaucoup de l'avoir passé en tout cas.
Voilà, alors tiens, on vous parlait du Smith Bullion et puis de la journée de la Rainette. Si vous voulez prolonger cette belle semaine de sport, il y aura la finale de la Coupe Hiver sur piste, c'est du cyclisme sur piste, la semaine prochaine, donc entre 10h et 17h, ça sera au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc ça sera le samedi 25 février. Votre sport n'est pas sport olympique, c'est ça peut-être la difficulté.
Oui, c'est vrai que ça y participe. On a été sport de démonstration en 1924. On espère pour 2024 être aussi sport de démonstration, mais on est toujours pas sport olympique. Alors, c'est dommage parce que ça amène beaucoup de choses, les sports olympiques, hein, on le sait. Ça nous permet d'avoir, on l'a vu au niveau de la boxe anglaise, ça permet de voir qu'on a d'avoir une très bonne représentativité en fait de ce sport au niveau mondial. Et c'est dommage qu'on n'y soit pas, mais je pense que c'est parce qu'on n'est pas assez répandu dans les différents pays. On a encore un aspect un peu franco-français peut-être, même si la boxe française se développe, hein, on a un développement qui se fait en Thaïlande. On va concurrencer directement la boxe thaï là-bas chez eux, pourquoi pas. Et on va aussi en Chine, il y a des clubs au Canada, ça se répand, mais pas encore assez pour qu'on puisse être reconnu. Alors est-ce encore une fois un problème de lobbying au niveau des membres du CIO, je sais pas. Là c'est compliqué.
Oui, en tout cas, ça fera encore des médailles supplémentaires dans l'escarcelle française.
Hein, ah oui, c'est
parce
sûr.
Parce que c'est quand même la boxe française est parmi les meilleures au monde au niveau des résultats mondiaux, des championnats d'Europe ou des championnats du monde.
Oui, oui, ça va de soi. On est, je dirais que 80% des médailles ou des champions sont français au niveau de la salle française, ce qui est un petit peu normal. Même si on a d'autres pays à côté qui commencent à monter très fort, notamment les pays de l'Est, la Serbie, la Croatie, ce sont des adversaires qui sont quand même assez éteigneux, qui sont pas simples. L'Italie, hein, il y a des et les Belges sont très bons boxeurs en français.
Ah ouais.
Oui, oui. Et donc, ça devient de plus en plus difficile. On va dire que la technique monte dans tous les pays et l'écart se resserre.
C'est pas un sport dont on peut vivre dans le monde en général.
Non, pas encore.
Non, pas encore.
On est vraiment trop amateur. C'est peut-être un petit peu dommage parce qu'on voit beaucoup de champions de françaises qui vont dans d'autres sports. Donc, ils vont surtout en kick, ils vont parfois en anglaise faire des tentatives. Ça marche, ça marche pas, mais ils vont souvent remporter plein de victoires. On voit Metzen qui remporte énormément de victoires donc en kick et c'est fabuleux, quoi.
Justement, ce point de comparaison avec la boxe anglaise, on vous l'a sorti depuis les Jeux, on vous a dit, tiens, on a une image maintenant de jeunes filles, justement, on en parlait, ou de jeunes femmes notamment, hein, avec des niveaux d'études très élevés, bien féminines, comme en boxe française, mais on vous le ressort souvent. Ça vous a un peu desservi au niveau de la pratique?
Alors, au début, oui, parce qu'on nous a dit que la boxe française, on a confondu souvent la boxe française et boxe anglaise.
Eh oui.
C'est peut-être, malheureusement, on l'a vu au niveau des médias, notamment au niveau des sports télévisés, des journalistes télévisés qui disaient toujours que la boxe française se portait bien, alors qu'en fait, c'était la boxe anglaise pratiquée par des Français, ce qui n'a rien à voir avec la boxe française. C'est pour ça que maintenant, on met le terme « savate » avant, donc on parle de savate boxe française, où là c'est autre chose, c'est pas un sport de voyous.
Alors,
on le voit par les personnes qui pratiquent, on l'a vu par les jeunes, les adultes, qui sont des personnes comme tout le monde, je dirais, qui ont fait des études et qui sont parfois, effectivement, on en parlait tout à l'heure, ingénieurs dans le civil, et qui font ce sport par amour du sport, tout simplement, et du fait qu'au niveau de la savate boxe française, avec cette discipline d'assaut technique, eh bien, on pratique un sport en dominant la touche. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se faire mal. On va essayer de pas avoir de cocard pour le lendemain ou de bras cassés, on va dire. Voilà. Donc, on est sérieux, je dirais, dans ce sport, quoi.
Oui, on va rappeler justement les disciplines qu'il y a dans la boxe française. Hein. On va le rappeler pour le grand public.
Oui. Alors, il y a la boxe française, donc, qui pratiquait sous forme d'assaut technique.
Oui.
Encore une fois, là, on cherche à marquer, à toucher. Hein, et non pas à frapper fort, l'essentiel de marquer des points. Donc on a par exemple, quand on touche en jambe, et on a droit donc de toucher poing et pied, quand on touche avec les pieds en partie basse, eh bien on marque un point, partie médiane, donc de la ceinture jusqu'au cou, on marque 2 points, et si on touche figure, on a 4 points. Mais attention, la touche figure, elle est contrôlée. Encore comme je le disais tout à l'heure, on ne fait pas le chaos. par rapport à l'aspect combat, où là, effectivement, on cherche le chaos du partenaire, mais là, on a très très peu de personnes qui font du combat maintenant, hein, on le voit très bien, ça devient de plus en plus difficile de trouver des personnes en combat, d'ailleurs.
Oui, parce que c'est...
C'est très particulier.
Ouais, c'est très particulier.
Il faut, c'est encore un entraînement qui est beaucoup plus dur, parce que là, c'est, c'est 5-6 jours par semaine, l'entraînement le dimanche, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Mmh. Et bon, tu le connais bien, il y a les championnats de France Elite A qui se font tous les ans, et... on voit, c'est quand même quelque chose de fabuleux, mais que là, tout le monde ne peut pas faire, quoi. Mmh. C'est vraiment un entraînement énorme, quoi.
Alors, comment se passe une séance d'entraînement, justement? Qu'est-ce qu'on travaille en priorité, le côté technique, côté physique?
Alors, il y a les deux. Il y a un peu des séances à thème. Généralement, ce qu'on fait dans une séance, donc on fait un échauffement, classique, dans tous les sports, un peu d'étirement actif pour se préparer à la séance qui va suivre derrière. Donc ensuite, il y a soit l'aspect de présentation technique, de mouvement technique, soit la présentation d'enchaînement technique qui peuvent se faire. Et après, derrière, on va passer sur ce qu'on appelle les assauts libres, où là, les personnes vont mettre en application ce qu'ils ont vu dans la séance auparavant. Mmh. Et ensuite, on termine par du renforcement musculaire et les étirements passifs. Donc, on a vraiment une séance classique de sport. Après, on peut avoir des thèmes un peu différents, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans une séance beaucoup plus de renforcement musculaire ou beaucoup plus l'aspect cardio, hein, en travaillant par exemple sur du fractionné. Fractionné pour un pied sur du sac ou fractionné pour un pied entre personnes en contrôlant ce que l'on fait, quoi. Donc on a... c'est un sport difficile, oui.
Le palpitant, le cœur, je suppose qu'il doit monter très haut.
Il monte très haut, il faut pouvoir récupérer très vite. C'est comme en boxe anglaise, on a une reprise avec une minute de repos. Il faut essayer de récupérer très vite dans une minute de repos pour pouvoir repartir aussitôt après derrière. Mmh. Et c'est vrai que ce qui est difficile, c'est cette espèce de fractionné que l'on va avoir, c'est-à-dire qu'un coup on va monter très vite, on redescend, on est toujours tout de suite prêt à repartir. C'est ça qui est difficile. Et donc il faut avoir de l'endurance d'un côté, parce que il faut tenir quand même 3, 4 ou 5 reprises de 2 minutes. Mmh. Et puis il faut pouvoir récupérer très vite, et il faut pouvoir monter très vite dans les tours. Mmh. Donc ce qui fait que c'est un sport très difficile.
Et cette notion de respect, c'est important, hein.
Ah oui, c'est énorme. C'est quelque chose que l'on voit bien, même au niveau des boxeurs, c'est le salut. Le salut avant l'assaut, voire même aussi avant le combat, et le salut après. C'est vraiment le respect du partenaire, parce que il est là, il en a bavé aussi pour être là. Il n'y a pas généralement de coups vicieux, quoi. C'est vraiment très très rare. Ça s'est vu, ça fait longtemps que ça s'est pas vu sur un ring. C'est quelque chose qui est essentiel, et je crois que c'est là on rejoint l'aspect de la boxe anglaise. Mmh. C'est le noble art, quelque part. Mmh. Le respect du partenaire.
Oui, et il y aurait comme ça des coups vicieux, on serait carrément déclassé, quoi. On pourrait être radié de son sport.
On peut être disqualifié.
Je crois que Dominique Valéral avait été l'ancien karatéka qui avait fait de la boxe française, et qu'on avait vu il y a très longtemps, qui avait été donc disqualifié, carrément radié de la fédération.
Hein. Oui, tout à fait. Nous aussi, on a eu ce type de problème, El Candili et autres personnes qui ont été, parce que pour des mauvais coups, mauvais gestes sur le ring, et ce qui est normal, à un moment donné, non, on peut pas l'accepter. Quoi. On est là avec un respect des règles. Si les règles sont pas respectées, à un moment donné, il faut suspendre la personne.
Et les problèmes d'arbitrage, est-ce qu'il y a des problèmes de contestation? Est-ce que des fois, dans le feu de l'action, on estime une décision un peu trop injuste?
Oui, ça m'est arrivé il y a 3 semaines, malheureusement, sur un jeune qui n'a pas passé le tour de sélection, et je pense que sur son deuxième assaut, il est volé. J'ai pas fait de réclamation parce qu'il n'y avait pas d'argumentation suffisante pour pouvoir contester. Dans le sens où effectivement c'est un sport de jugement, il y a quand même 3 juges, donc est-ce que c'est moi qui ai mal vu, est-ce que ce sont les juges, c'est toujours délicat. Donc, à ce moment-là, il faudrait, comme dans certains sports, amener la vidéo. Et encore, peut-être la vidéo sur trois côtés. Mmh. Donc c'est compliqué. Ça fait mal. Ça fait partie des règles du sport. Mmh. Il faut un coup on gagne, un coup on perd. Bon, c'est dommage qu'il ait perdu dans ces conditions-là. Je dirais que pour moi, il gagne sur la deuxième et troisième reprise. Son partenaire se prend 2 avertissements. Donc c'est lui, logiquement, qui devait gagner. Bon, j'ai pas compris. Alors, il faut savoir qu'il y a eu actuellement un certain assouplissement dans les règles, notamment au niveau de l'arbitre qui laisse un peu plus faire, les boxeurs. C'est pour, moins couper, en fait, les assauts, et moins couper les reprises. Donc, il intervient beaucoup moins, il laisse un peu plus faire. Alors, est-ce que c'est ce phénomène qui fait que les juges, maintenant, jugent un petit peu moins bien? Va falloir se poser des questions.
Bon, puis des fois, on se laisse un peu passer par la passion, c'est
oui,
des
aussi.
Fois, non
c'est oui, ça. Aussi, c'est vrai.
Faut montrer l'exemple, hein, Jean-Jacques.
Ah, oui, c'est vrai. Il y a du parti pris, quelque
ouais.
part. Hein.
Ouais.
Mais bon, bah, voilà, justement, c'est ce que je disais. Est-ce que c'est moi qui ai mal jugé? Est-ce que ce sont les arbitres, les juges, pardon?
Mm-hmm.
Bon, c'est pour ça qu'on peut pas porter réclamation. C'était pas non plus un championnat du monde.
Mm-hmm.
Même si ça amène quand même à passer le tour de l'élection et d'aller après dans les finales Île-de-France. Bon, bah, on remettra ça l'année prochaine et on fera la différence.
On forme les arbitres, hein, je crois, hein, aussi en boxe française. On a eu l'occasion d'en interviewer un, lorsqu'on était venu dans votre dernière organisation. On forme des arbitres. Hein,
tout à fait, tout à fait.
Il y en a qui passent carrément de l'autre côté.
Oui,
c'est-à-dire qui arrêtent la compétition et qui surtout se tournent, même jeunes, plutôt vers l'arbitrage.
Oui, alors il y a les deux. C'est-à-dire qu'on a des jeunes juges arbitres. Pour pouvoir intervenir dans les compétitions jeunes, ça laisse moins de pression, on va dire, aux boxeurs jeunes. C'est cet aspect-là qui est intéressant d'avoir un arbitre jeune. Et après, chez les adultes, bah souvent, effectivement, on est compétiteur. Après, compétiteur, on passe l'examen de juge-arbitre pour avoir son diplôme d'officiel. Et puis, pour beaucoup, passe de l'autre côté, effectivement, et soit devient entraîneur ou soit devient officiel. Donc après il y en a les deux aussi, on peut être officiel et entraîneur.
Mmh.
Bon, c'est un peu plus compliqué aussi.
Mmh.
Moi j'ai préféré rester sur le côté entraîneur.
Ouais,
c'est difficile après de faire l'officiel, même si je peux être réquisitionné entre guillemets si besoin quoi. Et donc là, bah, chez nous on le voit bien, hein, on a formé là, récemment on a 4, avec moi ça fait 5 officiels, juge arbitre, et bah ça mène déjà aussi une certaine capacité au niveau du club. À mieux dominer aussi les échanges et les entraînements qui se font, c'est-à-dire qu'on va apprendre très tôt à nos boxeurs bah, qu'en fait on est là pour respecter certaines règles, ne pas toucher fort, bien faire le geste, toucher de la bonne manière. Donc c'est cet aspect-là qui est intéressant.
Mmh.
De passer de l'autre côté, entre guillemets.
Oui, bien sûr. Et vous êtes un... Bon, vous êtes l'homme à tout faire, j'ai dit, vous êtes le président, l'entraîneur. Vous parlez beaucoup, avant l'entrée sur le ring.
Oui, ben, y a toute une préparation. Il y a l'aspect préparation physique qui est important, mais il y a l'aspect préparation physiologique ou psychologique, pardon. On le voit beaucoup dans le sens où on a maintenant de la préparation mentale. Je sais que RVE collabore avec un préparateur mental avec qui nous collaborons également dans
certaines séances. Oui, qui fait de la course à pied, qui aime le sport aussi.
Tout à fait. Voilà, c'est notre ami Laurent hein, qui vient de temps en temps nous faire quelques séances d'ailleurs, parce que cet aspect-là est important.
D'accord, ok. Donc, c'est très bien. Alors, quand allez-vous organiser la prochaine réunion?
Alors, je pense que ça sera soit janvier, février, mars 2018, que l'on va faire une grosse compétition. Je pense que ça sera sur un week-end. Donc là, il faut qu'on trouve un petit peu la modalité pour le faire, le petit créneau également pour le faire. Mais on envisage tout ça très clairement.
D'accord, ok. Et puis vous faites des démonstrations aussi au moment de, j'allais dire, du forum des associations. On vous a vu en plein Rambouillet, hein, parfois.
On est, toujours là, on est toujours présent. On a été l'année dernière au gymnase avec les autres clubs sportifs. Mmh. Et on a fait notre petite démo, effectivement, à l'extérieur.
Très bien. Eh ben, je crois qu'on a le direct du côté donc de Jean Le Cam, que je vais remercier. Bonjour. Jean Le Cam, bonjour. Bon, alors, on n'entend pas, on n'a pas la liaison téléphonique. Jean ?
Oui.
Oui, bonjour Jean Le Cam. Merci en tout cas de nous accorder donc un peu de votre temps. Alors, par l'intermédiaire de notre ami que vous connaissez bien, hein, Denis Gallienne.
Minage.
Oui, Minage.
Bon.
Oui.
Oui, oui, bien sûr.
Oui. Alors, comment réussit-on à revenir au quotidien après donc le Vendée ? Comment on retrouve le quotidien, Jean ?
Bah, petit à petit, c'est-à-dire que on se réadapte petit à petit aux choses, quoi, aux choses du quotidien.
Ouais. C'est-à-dire que le premier feu rouge qu'on rencontre, ça se passe comment ?
Oh bah, on freine quand même et on s'arrête, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est la difficulté hein, de après quand on part comme ça en mer, c'est la difficulté de revenir à la réalité des choses.
Ouais, bah, petit à petit, on se réadapte un peu aux choses. Bon, bah, pas trop vite non plus, parce que c'est vrai on est toujours en train de regarder un peu aussi ce qui se passe sur les concurrents qui vont arriver. Il y a tout un ensemble de petits détails au fur et à mesure. Là, on a mis le bateau sous le hangar, donc après, fait aussi un check du bateau pour voir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc voilà, ça continue quand même.
Bien sûr. Alors, donc, sixième, comment vous l'avez vécu, ce Vendée, sportivement, par rapport aux éditions précédentes? On va rappeler, vous aviez terminé deuxième en 2004-2005, cinquième en 2012-2013. Là, vous êtes sixième, vous êtes trois, donc, qui arrivaient la même journée. Comment vous l'avez vécu? Il y a eu des conditions particulièrement difficiles?
Oh, bah, il y a eu... c'est vrai que dans le sud, il y a eu des dépressions assez sévères. Mais bon, globalement, je mets 80 jours, donc je mets une semaine de moins qu'il y a 4 ans. Donc pour moi, c'est quand même une bonne performance.
Oui, on va aller de plus en plus vite, hein, je crois, Jean. Hein. De toute façon, ça va pas s'arrêter. Plus ça va aller, plus on va battre des records.
Ah bah, je pense, ouais. Ouais, ça a toujours été le cas, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Avec la venue des foils, etc. Donc forcément dans 2020, les records vont encore tomber certainement.
Alors, vous connaissez bien Minage, hein, qui était venu nous raconter un peu votre histoire. Ça paraît quand même incroyable. Vous avez failli ne pas partir. Et puis, il y a eu tout un réseau comme ça, Facebook, pour vous, hein, pour vous soutenir et pour vous permettre de partir. Ça vous plaît. Hein. On y pense en mer à toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour vous.
Ah ben c'est sûr que ça a été un projet complètement fou, hein, parce que on avait le bateau et puis on n'avait pas de moyens, donc on a préparé le bateau tout l'hiver dernier, donc à trois personnes, donc avec David, Tristan et puis moi-même, et puis toute l'équipe de après en communication qui s'est occupée de faire connaître le projet, et puis avec le financement participatif que Minage a largement initié au départ, hein, parce que ils ont fait un site de soutien, etc. Donc ça a donné un peu d'élan au projet. Et donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on est arrivé, parce qu'au mois d'août, le bateau était encore blanc à 3 mois du départ. Donc c'est pas commun.
Ça paraît quand même incroyable, hein, avec le palmarès que vous avez, d'avoir des difficultés à trouver des financements pour s'élancer sur la plus grande course au monde à la voile.
Bah oui, c'est le cas. Je dois pas être très bon vendeur, je pense. Je sais pas trop. Mais moi, je suis assez dans la technique. Donc l'idée, c'était de dire si le bateau n'est pas prêt, de toutes les manières, on n'y arrivera pas. Donc, on s'est concentré sur la préparation technique du bateau. Et puis, on s'est dit qu'on trouverait des moyens très tard dans le programme, ce qui a été le cas, puisqu'on a trouvé des partenaires comme Ibis Budget au mois de septembre. Donc, ça, c'est une opération qui s'est faite dans un temps record, en 5 jours. En 5 jours, Ibis Budget, ils sont venus sur le projet, donc c'était quand même des situations un peu atypiques, on va dire.
Ouais, particulièrement atypique. Minage, qui est avec nous, naturellement, voulait vous faire un petit coucou, hein, parce que grâce à ça, vous êtes devenu carrément ami maintenant, hein.
Oui, bonjour Jean. J'avais une petite question, ouais, comme ça ce matin. Tu redescends pour voir l'arrivée des retardataires, on va appeler ça les retardataires, ouais, mais ceux qui sont en train de souffrir encore dans l'Atlantique Nord, là, et en particulier ton copain espagnol.
Je pense qu'on ira peut-être demain voir l'arrivée de... Il y aura Didac, c'est sûr, on ira voir Didac. Je pense, on ne sait pas trop, en fait, vu les conditions météo qu'il y a en ce moment, qui sont... en plein anticyclone, donc les arrivées se font vraiment et puis à l'âne, donc on va voir ce qu'on va faire avec Anne pour essayer de viser au plus juste son arrivée normalement demain midi.
Charlie. Oui. C'est le prochain, oui, effectivement. Bon, pour l'instant, ils sont 11 à être arrivés, hein, puisque hier Fabrice Amedeo est arrivé, hein, Jean.
Oui, oui. Oui, ça c'est clair.
Dernier petit mot, maintenant on prépare le Rhum 2008 et puis ensuite la Transat en double.
Là il y a la Transat Jacques Vabre, ouais, au mois de novembre prochain. Donc donc avec une destination Brésil. Nous, on prépare le bateau, là, on va remettre Hubert à l'eau au mois de, dans un mois et demi à peu près, pour être présent au Grand Prix de Dordogne. Et puis après, avec Horizon, Jacques Vabre, fin de l'année.
Parti. Voilà. Merci en tout cas, Jean Le Cam. Merci, Maître Jean, celui qu'on surnomme Maître Jean. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci en tout cas. Bravo.
Pas de rien. Bon, voilà. Bon dimanche, bon après-midi.
Voilà. Merci pour Jean Le Cam. On l'a eu, hein.
Oui, oui, oui.
Il a été présent. Bon, c'est un marin, alors.
Oui, tout à fait.
Voilà. Très bien. Allez, la pub, la musique, et ensuite on va conclure cette émission bien chargée ce matin.
La Cime Verte et la Gage vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin ? La Cime Verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler ? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences ? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La Cime Verte, votre professionnel de l'élagage, 71 bis, rue de la Grange-Colombe, à Rambouillet. 01 30 46 23 36 ou www.lacimeverte.com.
Bienvenue au Royal de Gazeran à Rambouillet, zone du Bel Air, face au magasin Feu Vert. Votre restaurant vous accueille dans un nouveau cadre convivial, avec un espace enfant, pour un moment entre amis ou en famille, 7 jours sur 7, midi et soir. Le Royal de Gazeran vous propose son buffet à volonté. Entrée, plat, dessert tous les jours. Et aussi la livraison à domicile sur royaldegazeran.fr. Le Royal de Gazeran, zone du Bel Air, 7 rue Gustave Eiffel à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 78 88.
D'avoir Jean Le Cam, grand monsieur quand même, hein,
bon, Jean, oui,
il avait son portable dans la voiture, bon, enfin, c'est arrivé, il l'a retrouvé et puis voilà, on a pu le voir. C'est vrai que on était en train d'en parler en off, ça paraît quand même incroyable. Maître Jean, celui qui a un des plus beaux palmarès de la voile, qui a eu du mal à partir. Oui, 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 tout à fait. Trouver un financement, c'est quand même fou.
Oui, oui. On voit effectivement aujourd'hui un Vendée Globe qui sont en train de se scinder en deux, avec les premiers bateaux, Armel Lecléac, Thomson, avec des budgets extraordinaires, et puis une deuxième flottille avec des gens aujourd'hui qui essayent de partir avec deux bouts de ficelle et un bout de scotch. Et voilà. Et je pense en particulier au dernier aujourd'hui qui est Sébastien Destremo, le Toulonnais, qui est au large du Brésil et qui est parti voilà avec lui aussi pas grand chose, avec du participatif également, puisqu'il a fait appel au soutien des gens sur les réseaux sociaux, et qui lui va mettre pas loin de là, on est à 100 et quelques, ouais, il va mettre à peu près 120 jours quoi, donc ça commence à faire beaucoup
hein. Ouais, ouais. Alors on va rappeler que hier est arrivé, donc on l'a dit dans l'interview, le 11e, ils sont combien en course encore?
Pour moi, ils sont encore 6. Ouais. Alors 6 ou 5, puisqu'il y en a un qui a dématé et qui est sous gréement de fortune. Donc il y en a un qui est au large de l'Espagne, qui est en train d'essayer de remonter, mais qui n'a plus de mât.
Ah, d'accord.
Donc ouais. En fonction des conditions météo dans le golfe de Gascogne, il va arriver ou il ne va pas arriver. Quoi.
Alors on va rappeler que Louis Burton est arrivé 7e, il a vécu tout près d'ici, à la Célébordes, hein, Louis Burton, et puis que Éric Bellion, qui est un Versaillais, est arrivé aussi 9e. Donc vous voyez, il y a beaucoup de Franciliens quand même, hein, même au niveau de la voile. C'est des exploits qui vous plaisent, hein, Jean-Jacques, ça.
Ah,
c'est
moi,
marin.
On
est tous admiratifs.
Moi je suis très admiratif devant ces personnes qui partent sur 70, 80 jours, 100 jours, qui vont se retrouver tout seuls, sans... Bon, je dirais pas sans aide quelque part, bon, à part quelques communications radio, mais voilà, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils peuvent pas, je crois que c'était effectivement Jean-Luc Ham qui a eu quelques soucis au Cap Horn, qui avait été secouru il y a quelques années.
Par Rio,
c'était lui. Donc quand on voit que ça peut vite vite dégénérer, quoi, c'est... Enfin, moi je suis très admiratif, quoi. C'est quelque part je retrouve l'aspect du boxeur qui est seul sur le ring, mais là c'est encore pire, quoi.
Et puis ce sont des gens, on l'a dit, très humbles, hein,
oui tout
voilà,
à fait
là, mais... Jean Le Cam, bah oui, pour lui c'est naturel, c'est voilà. Hein, c'est ça qui est fou quand même, hein.
Oui, ce sont encore des aventuriers pour moi.
Alors bon, on n'a pas parlé de fait de passer Noël seul, mais lui ça le dérange pas, hein. Sa famille, c'est peut-être plus gênant.
Oui, ils sont maintenant habitués. Ouais, je pense que c'est plus difficile aujourd'hui pour les skippers qui ont fait le premier Vendée Globe, là. Donc effectivement, pour les proches, maintenant pour Jean, c'est une habitude.
Ouais,
hein,
ouais, bien sûr.
C'est son 4e Vendée Globe, ça fait 6 fois qu'il passe le Cap Horn. Ouais, donc ils ont un peu de bouteille et ils sont habitués.
Très bien, merci en tout cas Denis d'avoir prolongé ce Vendée qui a été un des grands moments sportifs de cette année.
Oui. Je pense que le succès, en tout cas, du Vendée Globe au Sable d'Olonne, ils ont encore dépassé tous les objectifs en termes de visiteurs, puisqu'ils ont même été obligés de fermer le village la veille du départ, tellement il y avait de monde. Donc il y a des gens qui n'ont pas pu aller sur les pontons. Je pense que dans 4 ans, ça va être plus grand, puisqu'ils envisagent de faire un deuxième village pour accueillir les gens, quoi.
D'accord. Et puis n'hésitez pas, hein. Vous êtes chez vous ici, revenez pour n'importe quel événement sportif, c'est pas un problème. Voilà. Jean-Jacques, il y a des championnats de France de boxe, on a eu l'occasion de les suivre il y a quelques années, de boxe française, assez spectaculaire, ça sera à la Carpentier cette année.
Cette année, oui, le 18 mars, ouverture des portes à 18h, hein, de mémoire. Il y a 15 combats qui sont prévus pour l'instant, donc c'est la soirée à ne pas manquer pour nous. Le club de Rambouillet va y aller, on va être présent là-bas. On y va avec un bus, on affrète un bus pour partir, et je pense qu'on verra de très belles choses cette année.
Oui, c'est un beau spectacle, et puis il y a un côté cérémonial, c'est-à-dire les boxeurs qui rentrent sur le ring avec la musique comme les boxeurs de la boxe anglaise.
Je pense qu'il y a eu un petit peu d'inspiration.
C'est des championnats de France.
Il y a eu un peu d'inspiration de ce qui se fait dans les championnats du monde de boxe anglaise, mais ramené donc au niveau de la boxe française. Et c'est quelque chose de très spectaculaire, mais il y aura des combats masculins, des combats féminins. C'est vraiment la soirée pour nous à ne pas manquer. Donc c'est effectivement la Georges Carpentier dans le 13e arrondissement.
Dernier petit mot, si vous avez un site internet, donnez-le pour qu'on puisse éventuellement tout savoir sur votre section.
Alors tout à fait, donc il y a le site classique sbf-6rambouillet.fr, et il y a un site Facebook également qui permet également de se tenir à jour un peu plus rapidement, on va dire.
Merci Jean-Jacques Lenôtre, à très bientôt. Vous aussi, cette radio, elle vous est ouverte sans aucun problème. On va remercier Victor d'avoir été aux manettes ce matin. Il a eu beaucoup de préparation, de coups de téléphone.
Beaucoup de travail.
Et puis n'oubliez pas le semi de Bullion qui continue. On vous donnera le résultat la semaine prochaine et la journée de la Rainette aussi, un peu partout dans notre région. Salut, bon dimanche à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine, Rambouillet Olympique, 10h-11h. Bon dimanche. Merci.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune.